Extrait des contes merveilleux des pays de France, collecté par Dagmar Fink, F-I-N-K. Contes de Gascogne, recueilli par Jean-François Bladé. Première cassette, deuxième face, suite et fin de la fève de Saint-Pierre. Au bout de 8 jours, Pierre dit « Maintenant que nous avons tout ce qu'il faut pour manger et nous vêtir, il nous faudrait bien une jolie petite maison. Cette vieille cabane me fait honte !» Et il remonte au ciel. Rigueurague monte par la fève, Rigueurague monte par la fève. Il arrive là-haut.
Qui est-ce ?
C'est moi, le pauvre Pierre, qui vient vous demander une maison pour nous mettre à l'abri du mauvais temps. Notre pauvre cabane fuit partout.
Eh bien, redescends, tu auras tout ce qu'il faut. Rigueurague descend par la fève, Rigueurague descend par la fève.
Arrivé à terre, il voit à la place de la cabane un joli château avec 5 ou 6 chambres et une cuisine très grande. Il y avait même 2 servantes qui avaient chacune un tablier blanc, une pour faire la cuisine et l'autre pour nettoyer la maison. À côté était une étable pour l'âne. Ce dernier s'était bien remis et chaque fois qu'il brayait, il faisait toujours sa pleine casserole de pièces de 5 francs. Et le bon Pierre était très content. Mais un jour, il eut le malheur de dire à sa femme « Et maintenant, non. Que nous faudrait-il pour être complètement heureux ?»«
Eh !» dit sa femme, « tu ne vois donc pas que nous n'avons pas dans le château un seul miroir pour nous mirer ?»«
C'est vrai » répondit-il.
« Eh bien, je vais aller en demander à Saint-Pierre. »
Rigueurague monte par la fève, Rigueurague monte par la fève. Il arrive à la porte du paradis.
Qui est-ce ?
C'est moi, le brave Pierre, qui viens vous demander une paire de miroirs pour nous mirer.
Eh bien, redescends tout de suite. Tu auras tout ce que tu voudras. Rigueurague descend par la fève, Rigueurague descend par la fève.
En entrant dans le château, il vit tous les murs couverts de miroirs et de glace. Là-haut, au paradis, Saint-Pierre pensa.
La femme de Pierre est devenue bien orgueilleuse pour qu'il lui faille autant de miroirs pour se mirer. Il faut que j'aille voir ça.
Et Saint-Pierre descendit sur la terre. Il allait arriver au château de Pierre lorsqu'une averse s'avança à bride abattue du côté de Bélesta, B-E accent aigu, L-E-S-T-A. Le saint homme se mit à courir vers le château et l'averse et lui y arrivèrent ensemble. Saint-Pierre frappa.
Qui est-ce ? Demanda Pierre à travers la porte.
C'est un pauvre homme qui voudrait s'abriter de la pluie.
Ici, nous ne recueillons personne, dit Pierre. Il y a assez de sapins dans la forêt pour s'abriter et la pluie ne passe pas à travers.
« Eh bien, mauvais Pierre, je suis Saint-Pierre qui vous a donné tout ce que vous possédez. Et puisque vous ne voulez pas me recueillir, vous allez redevenir pauvre comme vous l'étiez auparavant. »
Et Saint-Pierre s'en retourna. En peu de temps, le château se mua en une pauvre cabane. Les habits de tous furent en lambeaux et sur la table. Il n'y eut qu'une pleine terrine de pommes de terre bouillies et un morceau de pain rassis. À côté de la cabane, le pauvre âne, maigre comme au temps passé, se mit à braire. Et Pierre saisit vivement la casserole pour venir ramasser les pièces de 5 francs. Mais dans la casserole, il ne tomba qu'un tas de crottes. Et à partir de ce moment-là, dans la cabane, ils furent pauvres comme auparavant. Le conte suivant s'appelle « Les deux filles ». Il y avait une fois un homme et une femme qui avaient une fille jolie, jolie comme le jour. La femme mourut et l'homme se remaria avec une femme qui accoucha d'une fille laide, laide comme le péché. Quand les deux filles furent grandelettes, la marâtre, qui ne pouvait pas sentir la jolie fille et qui la battait 20 fois par jour, dit à l'homme « Prends ta fille et va la faire perdre !» L'homme avait pitié de sa fille, mais il avait peur de sa femme, et il répondit « Femme, je ferai ce que tu veux. » Mais la jolie fille, qui était cachée derrière la porte, avait tout entendu. Aussitôt, elle courut le conter à sa marraine. « Filleule, lui dit sa marraine, remplis tes poches de cendres que tu sèmeras sur ton chemin. Par ce moyen, tu rentreras à la maison. » La jolie fille revint au galop chez son père et remplit ses poches de cendres. À peine avait-elle fini que son père lui dit « Pauvrette, allons chercher des champignons dans le bois. » Tous deux partirent donc pour le bois. Mais le père n'avait pas le cœur à chercher des champignons. Tout en marchant, la jolie fille semait sur son chemin les cendres qu'elle avait dans les poches, comme sa marraine le lui avait dit. Enfin, le père se jeta dans un fourré, sans être vu, laissa la jolie fille seulette et revint dans sa maison à l'entrée de la nuit.
« Eh bien, mon homme, as-tu fait perdre ta fille ?»«
C'est fait. »«
Eh bien, mon homme, pour ta peine, tu vas manger avec nous une assiettée de bouillie de maïs. »
Tout en mangeant la bouillie, l'homme pensait à la jolie fille qu'il avait abandonnée toute seulette dans le bois et disait « Ah, si la pauvrette était ici, elle mangerait aussi sa portion de bouillie.
« Je suis ici, père !»
répondit la jolie fille qui avait retrouvé son chemin au moyen des cendres et qui écoutait derrière la porte. Le père fut bien content de voir sa fille revenue et mangeant sa portion de bouillie de bon appétit. Mais quand elle fut allée se coucher avec sa sœur, la marâtre dit à son mari
« Tu es bête! Tu n'as pas conduit ta fille assez loin !» « Ramène-la demain dans le bois et tâche qu'elle ne revienne plus !»
L'homme avait pitié de sa fille, mais il avait peur de sa femme et répondit « Femme, je ferai ce que tu veux. » Mais la jolie fille qui s'était levée de son lit et qui écoutait cachée derrière la porte avait tout entendu. Aussitôt, elle courut le conter à sa marraine. « Filleule, dit sa marraine, « remplis tes poches de graines de lin. » Elle y aime. Tu sais que le lin est une plante qui sert à faire du fil et qui a des graines assez grosses, que tu sèmeras sur ton chemin. Par ce moyen, tu rentreras à la maison. La jolie fille revint au galop chez son père et remplit ses poches de graines de lin et se remit au lit. Le lendemain matin, son père entra dans la chambre et dit « Pauvrette, « allons chercher des champignons dans le bois. » Tous deux partirent donc pour le bois. Mais le père n'avait pas le cœur à chercher les champignons. Tout en marchant, la jolie fille semait les graines de lin qu'elle avait dans les poches, comme sa marraine le lui avait dit. Enfin, le père se jeta dans un fourré, sans être vu, laissa la jolie fille seulette et revint dans sa maison à l'entrée de la nuit.
« Eh bien, mon homme, as-tu fait perdre ta fille ?»
« C'est fait. »«
Eh bien, mon homme, pour ta peine, tu vas manger avec nous une assiettée de bouillie de maïs. »
Tout en mangeant la bouillie, l'homme pensait à la jolie fille qu'il avait abandonnée toute seulette dans le bois et disait « Ah, si la pauvrette était ici, elle mangerait aussi sa portion de bouillie. »«
Je suis ici, père !»
répondit la jolie fille qui avait retrouvé son chemin au moyen des graines de lin et qui écoutait à la porte. Le père fut bien content de voir sa fille revenue et mangeant sa portion de bouillie de bon appétit. Mais quand elle fut allée se coucher avec sa sœur, la marâtre dit au père
« Tu es bête, tu n'as pas conduit ta fille encore assez loin. Ramène-la demain dans le bois et tâche qu'elle ne revienne pas. »
L'homme avait pitié de sa fille. Mais il avait peur de sa femme et répondit « Femme, je ferai ce que tu veux. » Mais la jolie fille, qui s'était levée de son lit et qui écoutait cachée derrière la porte, avait tout entendu. Aussitôt, elle courut le conter à sa marraine. « Filleule, dit la marraine, remplis tes poches de grains de mil. » Le mil, c'est le millet, on en a parlé tout à l'heure, des toutes petites graines, que tu sèmeras sur ton chemin. Par ce moyen, tu rentreras à la maison. La jolie fille revint au galop chez son père et remplit ses poches de grains de mil et se remit au lit. Le lendemain matin, son père entra dans la chambre et dit « Pauvrette, allons chercher des champignons dans le bois. » Tous deux partirent donc pour le bois. Mais le père n'avait pas le cœur à chercher des champignons. Tout en marchant, la jolie fille semait les grains de mil qu'elle avait dans les poches, comme sa marraine le lui avait dit. Enfin, le père se jeta dans un fourré, sans être vu, laissa la jolie fille seule et revint dans sa maison à l'entrée de la nuit. Mais quand la jolie fille voulut retrouver son chemin au moyen des graines de mil, il se trouva que les grains de mil avaient été mangés par les pies. P.I.E.S. bien sûr, les oiseaux noirs et blancs. La pauvrette marcha longtemps, longtemps, longtemps à travers le bois jusqu'à un château grand comme la ville d'Agen, A.G.E.N.
Qui frappe?
C'est une pauvre fille qui a perdu son chemin et qui demande à souper et à loger. La dame du château envoya la jolie fille souper à la cuisine avec les valets et les servantes et commanda qu'on lui donnât un bon lit. Le lendemain matin, elle la fit venir dans sa chambre et ouvrit la porte d'une armoire qui était toute pleine de robes. « Jolie fille, quitte tes hardes et choisis les habits que tu voudras. » La jolie fille choisit la robe la plus laide. Alors la dame du château la força de prendre la plus belle et de la mettre sur le champ. Ensuite, elle ouvrit un grand coffre plein de pièces d'or, d'argent et de cuivre, plein de bijouterie de toute espèce. « Jolie fille, prends dans ce coffre tout ce que tu voudras. » La jolie fille ne prit que 2 liards. Un liard, c'était le quart d'un sou, et il y avait 20 sous dans un franc. Tu vois qu'un liard, ça faisait à peine plus d'un centime. Alors la dame du château la chargea de pièces d'or, de bagues, de chaînes, de pendeloques d'or et la mena à l'écurie. « Jolie fille, prends la bête que tu voudras avec la bride et la selle. » Mais la jolie fille ne prit qu'un âne, un licou de corde et une mauvaise couverture. Alors la dame du château la força de prendre le plus beau cheval, la plus belle bride et la plus belle selle. « Et maintenant, lui dit-elle, monte à cheval. » Et repars dans ton pays. Ne te retourne pas du côté du château avant d'être là-bas, là-bas, en haut de cette côte. Alors, lève la tête et attends. La jolie fille remercia bien la dame du château, monta à cheval et partit pour son pays sans jamais se retourner. Quand elle fut en haut de la côte, elle leva la tête et attendit. Alors, 3 étoiles descendirent du ciel. 2 se posèrent sur sa tête et 1 sur son menton. Comme elle se remettait en route, un jeune homme s'en revenait de la chasse, monté sur son grand cheval, avec 9 chiens lévriers à sa suite, 3 noirs comme des charbons, 3 rouges comme le feu, 3 blancs comme la plus fine toile. Quand il vit une si belle cavalière, il mit son chapeau à la main. « Demoiselle, je suis le fils du roi d'Angleterre. J'ai voyagé dans le monde pendant 7 ans et je n'ai jamais rencontré un homme aussi fort et aussi hardi que moi. Si vous le voulez, je serai votre compagnon pour vous défendre contre les méchantes gens. »« Merci, fils du roi d'Angleterre, mais je saurais bien retrouver seul le chemin de mon pays. » Mais je n'ose pas retourner à la maison, par crainte de ma marâtre, qui ne peut pas me voir à cause de sa fille, laide comme le péché. Par 3 fois, elle a forcé mon père d'aller me perdre dans un bois. Alors, Le fils du roi d'Angleterre entra dans une colère terrible. Il tira son épée et siffla ses chiens lévriers. Demoiselle, montrez-moi le chemin de votre maison. Je veux aller faire manger par ma meute votre père, votre marâtre et votre sœur. Fils du roi d'Angleterre, votre meute est à votre commandement, mais vous ne ferez pas cela. S'il plaît à Dieu, il ne sera pas dit que mon père, ma marâtre et ma sœur auront souffert le moindre mal à cause de moi. Mais le fils du roi d'Angleterre ne voulait rien entendre et criait comme un aigle. « Eh bien, je dirai à mon juge rouge, juge-les à mort. Je le paye, il faut qu'il gagne son argent. » Fils du roi d'Angleterre, votre juge rouge est à votre commandement, mais vous ne ferez pas cela. S'il plaît à Dieu, il ne sera pas dit que mon père, ma marâtre et ma sœur auront souffert le moindre mal à cause de moi. Eh bien, si vous voulez que je leur pardonne, il faut que vous soyez ma femme. Fils du roi d'Angleterre, je serai votre femme si vous voulez leur pardonner. Le fils du roi d'Angleterre épousa donc la jolie fille qui fut bien heureuse avec lui et devint la plus grande dame du pays. Peu de temps après la noce, la sœur laide, laide comme le péché, apprit ce qui s'était passé et dit « J'irai au bois, moi aussi, et il m'en arrivera autant. » Elle partit donc pour le bois et marcha longtemps, longtemps, longtemps. Enfin, elle arriva sur la porte du château grand comme la ville d'Agen.
Qui frappe ?
C'est une fille qui a perdu son chemin et qui demande à souper et à loger. La dame du château envoya la fille laide, laide comme le péché, souper à la cuisine avec les valets et les servantes et commanda qu'on lui donnât un bon lit. Le lendemain, elle la fit venir dans sa chambre et ouvrit la porte de l'armoire qui était toute pleine de robes. « Mie, quitte tes hardes et choisis les habits que tu voudras. » La fille laide, laide comme le péché, choisit la plus jolie robe. Alors, la dame du château la força de prendre la plus déchirée, la plus sale, et la lui fit mettre sur le champ. Ensuite, elle ouvrit le coffre plein de pièces d'or, d'argent et de cuivre, et de bijouteries de toute espèce. « Mie, prends dans ce coffre tout ce que tu voudras. » La fille laide, laide comme le péché, choisit 100 pièces d'or, 100 quadruples d'Espagne et 100 bagues d'or. Alors, la dame du château ne lui laissa prendre que 2 liards et une bague de cuivre. Ensuite, elle la mena à l'écurie. Mie, choisis la bête que tu voudras, avec la bride et la selle. La fille laide, laide comme le péché, choisit le plus beau cheval, la plus belle bride et la plus belle selle. Alors la dame du château ne lui laissa prendre qu'un âne, un licou de corde et une mauvaise couverture. « Et maintenant, lui dit-elle, monte sur ton âne et repars dans ton pays. Ne te retourne pas vers le château avant d'être là-bas, là-bas en haut de la côte. Alors lève la tête et attends. » La fille laide, laide comme le péché, ne remercia pas la dame du château. Elle monta sur son âne et partit pour son pays. Mais elle se retourna vers le château avant d'arriver en haut de la côte, leva la tête et attendit. Alors, 3 bouses de vache tombèrent sur elle, 2 sur la tête et 1 sur le menton. Comme elle se remettait en route, elle rencontra un vieil homme, sale comme un peigne et ivrogne comme une barrique. « Mie, lui dit-il, je te trouve à ma fantaisie. Il faut que tu sois ma femme, sinon tu mourras de mes mains. » Par force, la fille laide, laide comme le péché, dut suivre l'ivrogne dans sa maison et consentir au mariage. Depuis lors, le mari continue de boire comme un trou et il bat sa femme 20 fois par jour. Le conte suivant s'appelle « La récolte de la Saint-Sylvestre ». Il y avait autrefois à Saint-Avit, A-V-I-T, un tisserand chargé de famille et pauvre comme un furet, il se nommait Cluzet, C-L-U-Z-E-T. Ce Cluzet n'avait pas son pareil pour prendre les lapins en toute saison, au furet, au lacet, c'est-à-dire au collet, et pour les tuer à l'affût, même dans les nuits les plus noires. Un soir d'hiver, veille du premier de l'an, Cluzet mangeait la soupe avec tous les siens. Cela fait, il dit à sa femme, « Écoute-moi, couche les enfants et monte au lit, moi je m'en vais à l'affût, à la chasse. » Cluzet prit son fusil, son havresac, ses munitions et partit. Il glaçait, et les étoiles brillaient dans le ciel noir et sans lune. À peine le tisserand s'était-il mis à l'affût parmi les rochers qu'il entendit crier sous ses pieds. « Allons, fainéants, dépêchez-vous, il faut que tout soit prêt à minuit juste. Nous y allons, maître, nous n'avons que la nuit de la Saint-Sylvestre. » Alors Cluzet comprit que c'étaient les petits hommes, les nains, qui se préparaient à leur travail de tous les ans. Et il demeura là pour voir et entendre ce qui allait se passer. À l'entrée d'un terrier, le maître des petits hommes, un fouet à la main, regardait le ciel en criant « Minuit ! Allons, fainéants, dépêchez-vous ! Il faut que votre provende, nos provisions de toute l'année, soient sous terre avant le lever du soleil. Nous y allons, maître, nous n'avons que la nuit de la Saint-Sylvestre. » Du terrier décampait sous les coups de fouet du maître je ne sais combien de petits hommes avec des faux, des faucilles, des fléaux à battre le blé, des serpettes, des paniers de vendangeurs, des joues, des aiguillons, enfin tout ce qu'il faut pour récolter toutes choses et pour conduire le bétail. Les petits hommes partis, le maître appela le tisserand. Cluzet, veux-tu gagner un écu de 6 livres ? Ah oui, certes, maître des petits hommes. Eh bien, Cluzet, tu vas donner un coup de main à mes gens. Une heure après, quelques petits hommes revenaient déjà de je ne sais où. Les uns conduisaient des charrettes grandes comme des moitiés de citrouilles, chargées de foin, de raisins, de maïs, de fruits de toutes sortes. Les autres ramenaient des bœufs et des vaches pas plus grands que de petits chiens, des troupeaux de brebis pas plus hautes que des belettes. Cluzet avait fort à faire pour aider les petits hommes qui maintenant arrivaient par centaines. Et toujours le maître faisait claquer son fouet, clac, clac, en criant « Allons, fainéants, dépêchez-vous, il faut que notre provende soit sous terre avant le lever du soleil. Nous nous dépêchons, maître, nous n'avons que la nuit de la Saint-Sylvestre. » Juste au lever du soleil, toute la provende des petits hommes était sous terre. Alors le maître dit au tisserand, « Cluzet, voici ton écu de 6 livres. Certes, tu l'as bien gagné. Veux-tu en gagner un autre, une autre pièce d'argent ?»« Oui, certes, maître des petits hommes. Eh bien, Cluzet, tu vas donner encore un coup de main à mes gens. » Déjà les petits hommes sortaient des creux des rochers chargés de sacs pleins d'or jaune, de sacs pleins de louis et de quadruples d'Espagne. Et toujours le maître faisait claquer son fouet en criant « Allons, fainéants, dépêchez-vous, nous avons une heure juste pour remuer les piles d'or jaune que nous gardons au creux des rochers. Si cet or ne voit pas le jour une fois par an, il se pourrit et devient rouge. Alors il faut le jeter. Nous y allons, maître, nous y allons, nous n'avons que la nuit de la Saint-Sylvestre. » Cluzet avait fort affaire à vider les sacs et à remuer l'or jaune pour lui faire voir le jour. Aussitôt, les petits hommes le reprenaient et l'emportaient vite, vite au creux des rochers. Une heure après, le maître fit claquer son fouet et cria « Clac ! Tiens, Cluzet, voici ton autre écu de 6 livres. Certes, tu l'as bien gagné, mais mes gens sont des riens qui valent. Par leur fainéantise, 3 quintaux d'or jaune n'ont pas vu le jour depuis plus d'un an. Maintenant, voilà cet or pourri et rouge. « Allons, canaille, jetez dehors cette saloperie qui nous empesterait sous la terre !» Les petits hommes obéirent. Ils jetèrent dehors les 3 quintaux d'or rouge. Puis ils disparurent avec le maître au fond du terrier. Cluzet prit, dans le tas d'or rouge, 1 louis d'or et 1 quadruple d'Espagne. Cela fait, il enterra le reste et retourna chez lui. Eh bien, mon homme, as-tu fait bonne prise ? Lui demanda sa femme. Oui, mi, j'ai fait bonne prise. Montre un peu. Pas encore. J'ai des affaires pressées ailleurs. Sans prendre le temps de manger ni de boire, Cluzet partit pour la ville d'Agen, A-G-E-N, et entra dans la boutique d'un orfèvre. « Bonjour, orfèvre, dit-il, regarde cet or rouge. Regarde ce louis d'or et cette quadruple d'Espagne. Sont-ils aussi bons que s'ils étaient en or jaune ?
Oui, mon ami, dit l'orfèvre, si tu veux, je vais te les changer contre des écus, des pièces d'argent.
L'argent compté, Cluzet repartit aussitôt pour Saint-Avit, sans prendre le temps de manger ni de boire. En arrivant, le pauvre homme n'en pouvait plus.
Femme, vite, vite, la soupe, vite, la miche de pain et le pichet de vin. Je crève de faim et de soif.
Le souper fini, le tisserand se mit au lit et ronfla 15 heures de suite. Mais la nuit suivante, il partit en secret pour les rochers de Gers, G.E.A.X.A.N.D.R.A. V.R.E., et revint avec un quintal d'or rouge. Les deux autres nuits, il rapporta le reste. Alors Cluzet appela sa femme. « Regarde, n'avais-je pas raison de te dire que j'avais fait bonne prise la nuit de la Saint-Sylvestre ? Maintenant nous sommes riches, il faut prendre du bon temps. » Ce qui fut dit fut fait. Cluzet quitta Saint-Avit avec les siens et ils s'en allèrent loin, bien loin. Avec ses 3 quintaux d'or rouge, Cluzet acheta là un grand bois, un moulin à eau à 4 meules, 20 métairies d'un ferme, et un beau château où il vécut longtemps, heureux avec sa femme et ses enfants. C'était un brave homme, serviable pour ses voisins, et aumônier comme pas un. Aumônier, c'est-à-dire qu'il donne des aumônes aux pauvres, généreux. Cela l'empêcha pourtant pas d'être jalousé pour sa fortune. Deux mots maintenant sur les petits hommes. Ces petits hommes habitent sous terre. Ils boivent et mangent comme nous. Voici comment ils se procurent ce qu'il leur faut. Selon les saisons, la terre porte différentes récoltes. Du foin au mois de juin, du blé au mois de juillet, des raisins et du maïs au mois de septembre. Il y a aussi les fruits de toutes sortes qui viennent chacun en son temps, et le bétail gros et menu. Tout cela est pour les hommes comme nous. Chacun peut le voir et le toucher à sa volonté. Mais il y a un autre genre de récolte, un autre genre de fruits de toutes sortes, un autre genre de bétail gros et menu, que nous autres nous ne voyons pas et nous ne touchons presque jamais. Tout ceci pousse à la fois pour les petits hommes, durant une seule nuit, la nuit de la Saint-Sylvestre, depuis le coucher du soleil jusqu'à minuit, et doit être rentré sous terre depuis minuit jusqu'au lever du soleil. Pendant plus de 7 heures, les petits hommes sont donc forcés de travailler comme des galériens. Puis ils ont encore une heure juste, pour porter, remuer au jour, leur or jaune, leur pile de double louis et de quadruple d'Espagne, qu'ils gardent dans le creux des rochers. Si cet or jaune ne voit pas la lumière une fois par an, il se pourrit et devient rouge. Alors, les petits hommes n'en veulent plus et le jettent. Fin de la deuxième face de la première cassette des Contes de Gascogne de Jean-François Bladé, extrait du livre Contes merveilleux des pays de France par Dagmar Fink.